Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez RTF et tout de suite, c'est Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Cinéscopie, une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Nous sommes en direct jusqu'aux alentours de 19h30 demain, non 22h30, c'est déjà pas mal. Voilà, nous allons vous parler de l'actualité du cinéma, du support physique également, Blu-ray et DVD. Et puis tout à l'heure, donc, nous parlerons des films que nous avons vus cette semaine. L'actualité du cinéma est un petit peu morose ces temps-ci. Il n'y a pas de très très grosses sorties. Par contre, il y a des choses qui sortent sur les plateformes. Alors, je peux quand même déjà vous dire que j'ai vu le nouveau film de Charlize Theron, Apex, qui est sorti sur Netflix. Un film d'action, un thriller, une sorte de survival à la manière de Délivrance ou de La Rivière Sauvage. C'est un film réalisé par Balthazar Cormacour, avec dans les rôles principaux donc Charlize Theron et Joel Edgerton. C'est Taron Egerton. C'est plutôt pas mal en fait. On se dit en voyant ce type de film sur plateforme, vraiment que ça prendrait toute son ampleur, sa dimension sur grand écran. Voilà, parce qu'effectivement, ça a été tourné en décor naturel en Australie, je crois. Les paysages sont vraiment époustouflants. En plus, le film est doté d'une superbe photographie, donc cela ne gâche rien à l'affaire, bien au contraire. Voilà, alors, l'histoire, c'est l'histoire donc d'une femme interprétée donc par Charlize Theron qui, suite à un accident en haute montagne, décide de se retirer au fin fond de l'Australie, mais elle adore les sports extrêmes. Alors elle va décide de descendre une rivière en kayak, dans un coin très très sauvage de l'Australie, et ça va pas se passer tout à fait comme ça, puisqu'elle va devoir non seulement affronter des éléments, mais aussi un tueur en série, joué excellemment d'ailleurs par Taron Egerton. Donc on a comme ça un film plutôt efficace, on s'ennuie jamais, mais quand même, alors ça s'appelle Apex, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, donc je vous redis, le titre c'est Apex, tout simplement, c'est sur Netflix, et il y a quand même un petit problème dans ce film, c'est le scénario. Parce que le scénario aurait pu être pas mal, ça aurait pu être une course-poursuite, voilà, mais il y a quand même des facilités scénaristiques, et ça m'embête toujours. C'était le cas par exemple dans Le Réveil de la Momie. Vous vous rappelez que j'avais trouvé le film plutôt sur un plan formel, mais le scénario, il est complètement frais ce scénario. Il y a des choses qui ne vont pas, donc on ne peut pas adhérer à un film s'il y a des failles dans l'histoire. Donc moi personnellement, Apex, c'est un peu la même chose, et c'est un peu dommage, surtout d'ailleurs en ce qui concerne le dernier tiers du film. Moi, j'ai trouvé ça totalement invraisemblable, et c'est bien dommage, parce que ça a quand même coûté 80 millions de dollars, hein, ce film. Alors c'est un film où, bon, il n'y a pas... Il y a très peu d'acteurs, hein. Bon, évidemment, c'est essentiellement un film centré autour de ces deux personnages. Mais il y a quand même des scènes d'action assez efficaces et des effets spéciaux globalement plutôt pas mal faits. Donc oui, je vous en dis pas plus, je vais pas spoiler le film. Ça se laisse regarder, c'est plutôt une bonne production pour une plateforme comme Netflix, mais avec encore une fois ce bémol du scénario. Moi, je trouve que je sais pas qui relie les scénarios, parce que il y a peut-être personne, je sais pas. Il y a certainement une crise des scénaristes à Hollywood. Voilà, donc ça c'est Apex. Alors sinon, sur le plan de la musique de film, eh bien ça y est, nous connaissons l'invité d'honneur du festival de musique de film de Gand. Ce sera Trevor Jones. Alors Trevor Jones, un compositeur que nous affectionnons depuis Excalibur, puisque dans ce film de John Borman, c'est Trevor Jones qui avait écrit alors quelques passages, mais surtout arrangé les morceaux classiques qu'on entend dans le film. Il y a du Wagner, du Karl Orff, vous vous rappelez de ce chef-d'œuvre de John Borman. Et puis ensuite, Trevor Jones, on l'avait retrouvé sur des films comme Angel Heart, Mississippi Burning, et Le Dernier des Mohicans, qui peut être sa musique la plus connue, hein, Le Dernier Mohican. Et Dark Crystal aussi, hein, Dark Crystal, qui est un merveilleux film de fantasy, avec les marionnettes de Jim Henson. Donc Trevor Jones sera présent le 10 octobre. On va lui remettre un Lifetime Achievement Award, donc bah, une récompense pour l'ensemble de sa carrière, bien méritée. Et nous aurons, Laurent et moi, la joie, le plaisir, l'honneur d'y être. Voilà, donc ça nous fait bien plaisir d'aller au festival de Gand pour la cérémonie des World Soundtracks Awards, qui est quand même un événement depuis une vingtaine d'années, un événement majeur dans le monde de la musique de film. Et l'an dernier, nous y étions d'ailleurs, nous avions assisté au sacre de Camille, la chanteuse Camille, pour les chansons qu'elle avait écrites sur le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Voilà, et on avait pu discuter, on avait échangé un petit peu avec Camille, qui sera d'ailleurs en concert à Limoges au mois de novembre. Donc voilà, la boucle est bouclée d'une certaine façon. Bon, Laurent, bonsoir. J'espère que tu as passé une excellente semaine.
Bonsoir à tous. Oui, ma foi, assez riche. Cinématographiquement parlant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de 7e art, mais c'est quand même le centre de notre émission, malgré
oui,
tout.
C'est un peu le centre de nos préoccupations.
Oui, voilà. Et de la musique aussi, qui a trait au 7e art, forcément.
Oui.
Et donc là, ma foi, ça et là, on trouve quand même quelques petites pépites, on va dire. Voilà.
Oui, on en parlera tout à l'heure, peut-être.
Oui.
Alors, dis-moi, Laurent, nous allons peut-être commencer l'émission en musique.
Eh bien, c'est pour ça que je parlais de pépites.
Ah, voilà, je m'en doutais un peu.
Et donc, forcément... alors, je vous avais parlé de la musique minimaliste, c'était la semaine dernière, peut-être.
Oui.
Ou il y a deux semaines.
Oui, d'autant plus que nous avions assisté à un concert consacré à ce mouvement.
Et oui.
À Gand, au Festival de Gand, justement, qui était avec un hommage rendu à Philip Glass et Michael Nyman en particulier.
Tout à fait. Alors là, ce soir, on va changer un peu de sujet quand même, même si on y revient, à mon avis, on va y revenir assez rapidement dans les semaines à venir. Et là, pour le coup, on va reparler d'un musicien, orchestrateur, compositeur français. Qui a déjà sorti pas mal d'albums d'ailleurs, et entre autres un album qui rend hommage à, je dirais, un compositeur légendaire qui n'est autre que Lalo Schifrin, c'est Jean-Michel Bernard.
Ah oui, très bien.
Et donc ce mois-ci, Jean-Michel Bernard vient de sortir à nouveau un album. Mm-hmm. Qui s'intitule The New Bossa Nova Groove Experience, en fait, rend hommage aux années Bossa Nova de Lalo Schifrin.
Ouais, une bonne idée.
Alors, quel est le concept? C'est-à-dire qu'il reprend des grands classiques façon Bossa Nova, des grands classiques de jazz, mais aussi des musiques très connues de Lalo Schifrin, arrangé façon Bossa Nova, avec une formation assez complète, parce que tout simplement il a demandé bien sûr un petit peu d'aide, hein, et du coup à ses côtés il y a une voix qui n'est autre que la voix de Kimiko Ono, la clarinette c'est Paul Meyer, la guitare de Khalil Chahin, la batterie de Xavier Desandre Navarre et les percussions de François Constantin, et n'oublions pas la contrebasse de Pierre Boussaguet. Voilà. Alors chaque morceau est un peu la rencontre de la rigueur classique et de la liberté de jazz, et c'est vrai qu'on a des versions assez extraordinaires des grands classiques, parce qu'en fait c'est quand même vraiment des variations assez précises et fines de l'original, et on est transporté, enfin en tout cas moi je l'ai été, parce que bon, c'est extrêmement chaleureux. Du fait de la consonance et de cette version bossa nova. Alors on va profiter largement, parce que c'est vrai que le temps est morose ce soir, et donc puis l'air ambiant aussi, et donc là on a décidé de vous mettre un petit peu de, je dirais, de rythme et de chaleur,
un peu de baume au cœur,
voilà, à travers eh bien trois extraits. On va commencer par une version de Manix, après de Cincinnati Kid, et on terminera par Mission Impossible.
Ben voilà, un beau programme.
Voilà. Et donc dans des versions que vous n'avez jamais entendues jusqu'à présent. Allez, c'est parti. Et on se retrouve juste après pour la première rubrique de Cinescopie consacrée à la vidéo. Tout de suite, donc, Jean-Michel Bernard et sa formation pour cet hommage à Lalo Schifrin. C'est parti. Shadows
the cards will be fallen and chips in the pot he'll remain. For the book Lady Luck will be calling. The Cincinnati Kid, the Cincinnati Kid.
musique vidéo.
La rubrique vidéo, l'actualité du DVD, du Blu-ray, c'est maintenant dans Cinéscopie. Alors, on va commencer par un film israélien, une coproduction en fait entre Israël, la France, l'Allemagne et Chypre. C'est un film qui s'intitule tout simplement « Oui ». Film réalisé par Nadav Lapid et sorti en 2025. Alors, au lendemain de l'attaque meurtrière du 7 octobre, un musicien en quête de gloire soit chargé par le gouvernement israélien de composer un nouvel hymne national placé sous le signe de la vengeance. Voilà, donc un film assez étonnant, d'ailleurs inspiré quelque part d'une histoire vraie. Voilà, alors c'est un film assez satirique. Un peu dans la veine de ce que fait Ruben Östlund dans son pays. Il y a une dimension assez trash. Parfois, bon, certains ont reproché au film sa gratuité. D'ailleurs, d'une certaine façon, son côté un peu démonstratif. Voilà. En tout cas, moi, c'est un film que j'ai vu en salle. Et effectivement, le souci que j'ai quand même eu avec le film, c'est qu'il est un petit peu trop long, parce qu'on est quand même à 2h30 hein, de film. Donc, c'est quand même un petit peu long. Mais c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup d'énergie, qui est porté par ses deux acteurs principaux, Ariel Bronze et Efrat Dor. Nama Price également dans ce film. Musique également assez énergique, parfois techno. Musique signée Martin Osbar. Voilà, donc c'est un film quand même assez passionnant. Le portrait, c'est d'abord le portrait d'un anti-héros, ce musicien qui choisit de ramper finalement pour trouver la gloire, pour s'en sortir aussi financièrement. Voilà. Il y a pas mal de fêtes dans le film qui sont captées comme des clips cauchemardesques, caméra un peu convulsée, on va dire. C'est une mise en scène assez rageuse. Voilà, peut-être au bout d'un moment aussi un peu fatigante. C'est sûr que voilà. Et le meilleur moment finalement du film, c'est un moment d'ailleurs c'est un peu le contraire. C'est plutôt recueilli. Mais je vous en dis pas plus. Je vais pas spoiler le film. Ça s'appelle Oui, et je pense que vous pouvez donner un oui. Moi, je donne un oui à ce film quand même, même s'il a, bon, il y a des défauts hein, incontestablement, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, sur le plan technique, donc ce Blu-ray nous présente une image nickel chrome, donc pas de défaut. Le son également, avec une pêche musicale démentielle, franchement, sur ce film. Vous pouvez y aller et c'est Potemkin qui vous propose ce film. C'est un film assez particulier, mais voilà, c'est ça aussi le cinéma, il faut être bousculé parfois. Alors, un autre film qui nous bouscule pour d'autres raisons, de par son sujet, c'est le film réalisé par Charlotte de Villers et Arnaud Dufay, On vous croit. Un film avec dans les rôles principaux Myriam Akhediou, Laurent Capelluto et Nathalie Broods. C'est un film belge sorti l'année dernière, je l'avais vu également en salle. C'est un film qui se déroule quasi exclusivement dans le cabinet d'une juge chargée de statuer sur la garde d'enfants. On y assiste à l'audition d'une mère et de son ex-conjoint accusé de viol sur leur fils. Donc le film, en fait, c'est vraiment, on est sur cette audition, en fait. Le film dure 1h25 et alors il y a un côté quand même un peu thriller, parce que c'est vrai qu'on se demande jusqu'au bout si la parole de cette mère va être entendue. Est-ce que voilà, qui dit la vérité? Est-ce que la garde va finalement être confiée au père ou à la mère? Il y a quand même voilà. Mais et tout ça, c'est fait. Il y a une dimension documentaire dans le film qui est assez forte. Mais c'est une fiction en même temps, et merveilleusement interprétée par Myriam Akhediou. Je crois que là, c'est un film à ne pas louper. C'est ma recommandation de ce soir. C'est ce film, c'est On vous croit. et qui paraît chez Jour de Fête, mais uniquement en DVD. Voilà, c'est un petit peu dommage. Cela dit, la précision de l'image est telle qu'on jurerait qu'on a un Blu-ray haute définition sous les yeux. Donc voilà, c'est un DVD de très bonne qualité. Voilà, c'est un film... Bon là, c'est assez dur quand même, on rigole pas hein, dans ce film. Mais c'est, mon avis, c'est un film majeur de l'année dernière, on vous croit. C'est vrai qu'on a un petit peu oublié finalement ce film dans nos palmarès, peut-être parce que d'un point de vue cinématographique, voilà, on y a pas d'esbrouf, enfin tout est, voilà, il y a un côté vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, un côté documentaire, mais cela n'empêche pas, voilà, l'émotion et d'admirer, voilà, la prestation incroyable de cette actrice Myriam Akeydiou. Franchement, on vous croit, c'est ma recommandation de ce soir. Alors. Ce mois-ci, eh bien, Extra Lucide Film nous propose trois sorties assez intéressantes. Et ce sont trois films réalisés par Dario Argento et qui vous sont proposés dans des combos Blu-ray. Alors, je commence d'abord Dracula. Alors, Dracula, la version de Dario Argento avec dans le rôle de Van Helsing, Roger Hauer. Je dirais presque que rien que pour Roger Hauer, on peut acheter ce film, ce Dracula, qui vous est proposé, alors qui a été réalisé en 2012 hein, par Dario Argento et qui a été tourné pour le relief. Et la Extra Lucide nous propose le film à la fois avec un Blu-ray, le Blu-ray en version plate, mais également un Blu-ray relief fourni avec des lunettes. Et puis il y a également un livret hein, pour ce film. On retrouve également dans ce Dracula la fille de Dario Argento, Asia. Voilà, mais voilà, moi j'ai vu le film. J'ai vu le film et je dois dire que c'est une catastrophe. C'est peut-être l'un des plus mauvais films de son auteur, il faut bien le dire. Et c'est assez surprenant parce que quand même on a au générique des gens voilà, de qualité. À la photographie, on a Luciano Tovoli, par exemple, qui est un très très grand chef opérateur. Voilà, la distribution, le casting est là aussi plutôt intéressant. Mais voilà, le film, est, la mise en scène est paresseuse. C'est invraisemblable. Moi, quand j'ai été consterné à la vision du film, j'avais pourtant quelques attentes hein, vis-à-vis de l'adaptation de ce classique de Bram Stoker. Mais voilà, on peut se le procurer parce que quand même, Extra Lucide a bien fait les choses. Hein, il y a quand même pas mal de bonus. Et là, en plus, l'image, le rendu image est superbe. Voilà. Et puis la musique également, la musique de Claudio Simonetti. Oh là 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 là, mais c'est un naufrage. Mais vraiment, c'est un naufrage. C'est un film qui fait peine à voir. Et c'est... Mais bon... Je sais pas pourquoi je vous en parle finalement. Alors il y avait aussi une autre adaptation d'un classique de la littérature que Dario Argento avait réalisé et qui sort chez Extra Lucide Film également, c'est Le Fantôme de l'Opéra, film réalisé en 1998. C'est une édition Blu-ray avec un livret de 48 pages hein, également. Et dans ce film de Le Fantôme de l'Opéra, on retrouvait Asia Argento et Julian Sands. C'est un film que j'avais vu également au cinéma. Et j'étais sorti du film consterné également. C'est moins pire que Dracula quand même, il faut bien le dire. Ça se laisse regarder, mais bon, quand on connaît le Argento de la grande époque, on se dit que sur un sujet comme ça, Le Fantôme de l'Opéra, on va voir un film baroque avec une mise en scène exceptionnelle. C'est vraiment raté. Presque de bout en bout. C'est vraiment, vraiment dommage. Et la troisième sortie d'Extra Lucide Film, c'est Mother of Tears. C'est le troisième volet de la trilogie des Trois Mères. Alors là, on a deux chefs-d'œuvre à la base. On a Suspiria et puis Inferno. Et donc, Mother of Tears, c'est le troisième volet. On l'avait attendu pendant longtemps. Alors, on retrouve également dans ce film Asia Argento, mais également Udo Kier, qui nous a quitté il y a peu d'ailleurs. Et ce Mother of Tears, eh ben finalement, de ces trois sorties extra lucides, c'est le moins pire. C'est plutôt, ça se laisse regarder. Il est quand même pas mal. La photographie est plutôt réussie. Il y a quelques effets bien gore de la grande, à la manière hein, de Dario Argento, de la grande époque de Dario Argento. Voilà. Mais il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup de défauts. Le scénario, c'est quand même un peu aux fraises. Il y a le casting est inégal, les sorcières font plutôt rire que peur finalement. Donc ce Mother of Tears, c'est mes figues, mes raisins, je dirais. Mais si vous ne deviez acheter qu'un des films d'Extra Lucide ce mois-ci, ça serait plutôt ce Mother of Tears, réalisé en 2007, parce que celui-là, au moins, il se tient à peu près. Voilà. Et puis, Roger Hauer pour Dracula. Et puis sinon, il y a un documentaire que nous propose Extra Lucide Film. Ce documentaire s'intitule Panico, et il est consacré à Dario Argento. Alors là, oui, effectivement, vous pouvez vous laisser tenter, c'est plutôt intéressant. Bon, alors c'est vrai que Extra Lucide ont décidé de sortir finalement les derniers films de Dario Argento dans nos très beaux coffrets d'ailleurs, hein, ils ont une politique éditoriale de qualité et on ne peut que les en féliciter. Mais alors moi j'avais personnellement précédé la salve précédente, avec notamment Occhiali Neri, qui était un giallo, qui était plutôt, peut-être le dernier film, je crois, réalisé par Argento, qui était plutôt pas trop mal, faut bien le dire. Donc la salve précédente était intéressante. Celle-ci, bah, écoutez, c'est vous qui voyez, comme dirait quelqu'un, mais c'est vrai que on est quand même là, très très loin des chefs-d'œuvre d'Argento. On flirte vraiment avec le nanar, et c'est surtout le cas d'ailleurs avec Dracula, qui est vraiment, on se demande ce qu'on sous les yeux, quoi. Enfin, c'est totalement incroyable. Alors, je voudrais finir cette sélection avec une série télé américaine réalisée par Vince Gilligan. Ça s'appelle Pluribus. Pluribus, c'est Apple TV qui avait diffusé cette série. C'est une série fantastique avec dans les rôles principaux Richie Seahorn, Carolina Widra et Carlos Manuel Vesga. Un signal extraterrestre contenant le plan d'un virus transforme soudain l'humanité en conscience collective pacifiée, tandis qu'une romancière immunisée tente de comprendre ce monde devenu harmonieux où l'individualité a disparu. Voilà un pitch vraiment très très intéressant. C'est 9 épisodes qui vous sont proposés dans ce coffret, des épisodes qui oscillent entre 40 et 60 minutes. C'est vraiment la série à voir, un récit vraiment fascinant, hein, qui raconte finalement les tensions qui existent entre l'individu et le collectif. Franchement, c'est à voir, il y a un côté philosophique. Voilà, très très belle série, Pluribus, c'est chez Apple TV+. Voilà, donc je vous le conseille. Bon, bah écoute, Laurent, je te passe le micro, parce que voilà, j'en ai fini avec ma sélection. Voilà, avec les Dario Argento. Et puis surtout, quand même, il faut quand même voir ce film, On vous croit, hein, qui est assez fort, voilà, avec une superbe comédienne. Laurent, donc, je me tourne vers toi. Tu étais aux manettes toujours, hein, dans ton cockpit, en train de préparer la suite,
oui,
de l'émission.
Ben oui, oui, oui. Je suis envahi de boutons, de curseurs, de... Voilà, bon, c'est les coulisses.
Bah oui, exactement.
Alors, ma sélection de soir, eh bien, on va commencer par un film japonais.
Ah bah tiens, tu me surprends.
Édité par HK Vidéo, ouais, forcément, Metropolitan, pour un film de Kei Ishikawa avec Suzu Hirose, Fumi Nikaido, Yo Yoshida, et la musique est signée, comme vous le savez, de Pavel Nikeftin.
Eh oui. Donc c'est le grand retour.
Film de l'an dernier. Alors, c'est une coproduction quand même. Hein. C'est japonais, mais il y a aussi.
Je veux dire, il y a un nom pas très japonais, ton compositeur.
Voilà, polonais, ah oui, et aussi Singapour, qui est là pour, voilà, coproduire ce film, qui s'intitule, parce que je ne l'ai pas dit, Toyama Nami no Ikari.
Ah oui, ça nous manquait. Tu maîtrises, hein, quand même.
Voilà. Et le titre français, qui est quand même beaucoup plus, je dirais...
plus parlant, peut-être.
Hein. Plus parlant et plus attirant, peut-être. Lumière pâle sur les collines.
Quel beau titre, on dirait un haïku.
Et donc, on est en 1982, dans la campagne britannique, et une jeune journaliste anglo-japonaise demande à sa mère d'évoquer ses souvenirs de Nagasaki. Et donc, sur des réguliers allers-retours entre le Japon d'après-guerre et l'Angleterre des années 80, eh bien, rendent la compréhension de l'intrigue peut-être un brin ardue, hein, parce qu'il faut quand même vraiment maîtriser, je dirais, les dates, et aussi le défilement de l'histoire et des faits historiques. Et ce joli film, mélancolique, hanté donc par la mort, qui bénéficie d'une interprétation tout en délicatesse et d'une photo assez racée. Donc, soit le récit d'un échange pudique mais fécond entre une mère et sa fille qui se double du portrait de deux femmes unies par le même désarroi. Je vous invite parce que c'est vraiment un très beau film. Voilà. Donc, c'est pour ceux qui voudraient. Voilà, des films un petit peu apaisants, même si c'est un film dramatique, eh bien, il faut découvrir ce film qui s'intitule Lumière pâle sur les collines, et une note technique qui est sans faute. Hein, c'est vraiment la grosse perfection avec de très très belles images au final. On change de registre, un film qu'on avait vu d'ailleurs en salle et qui ne m'a pas véritablement convaincu. On avait vu le premier volet, Canto Uno, pour le film Mektoub My Love. Il y a eu le deuxième qui est passé un petit peu inaperçu parce que franchement, il faut bien le dire, il était quand même assez raté. Et le troisième qui est assez distinct, hein, parce que en fait, vous pouvez voir, je dirais, les différents films séparément, sans qu'il véritablement vous manquiez quelque chose sur un ou le précédent volet. Et là, bon, ben, c'est plutôt là encore décevant parce que le film, en tout cas, ne remplit pas la magie du premier. S'il y a une certaine, je dirais qu'il y a une certaine nostalgie, enfin pour ma part. Et franchement, je dirais que ça, la mayonnaise prend pas. C'est ce qu'elle veut dire. Le film est relativement long parce qu'on est quand même sur à peu près 2h30 de film, pas tout à fait, avec des dialogues, mais enfin, je veux dire, sans fin, où en fait il se dit pas grand chose, je dirais. Et donc, c'est un film qui a été réalisé par Abdel Latif Kechiche, avec, donc on reprend bien sûr quelques personnages des précédents épisodes, Shane Boumedine, Jessica Pennington et Salim Ketchouch. Et donc, quand du fait que le film est quand même relativement long, c'est un petit peu d'ailleurs le cinéma du metteur en scène. C'est assez soporifique sur la longueur, franchement. Moi, j'ai pas véritablement trouvé d'attrait. Alors, c'est vrai que il y a quand même ce passage de cette transmission de relais entre les différents films sur les quelques minutes, mais après, véritablement, c'est assez, je dirais. Assez oui, soporifique, franchement, si vous prenez un Tranxel, c'est la même chose. Voilà. Oui, non, on est en tout cas, on n'est pas passionné par le destin de ces différents personnages. C'est assez, je dirais, c'est un scénario assez pédant. Et franchement, on s'ennuie ferme, mais alors très très vite. Et donc, j'ai pas retrouvé vraiment cette atmosphère, cette ambiance en fait du premier volet où j'avais adoré. C'est vraiment une image très très réaliste, en tout cas de la jeunesse des années 90-2000. Et là, pour le coup, là, enfin c'est. Cette histoire, si vous voulez, de jeune homme timide qui devient l'acteur et le témoin de parfois redoutables non-dits sentimentaux entre un couple entre un producteur et une jeune actrice avec une différence d'âge assez importante, franchement, c'est pas du tout passionnant. Enfin, je sais pas quelle a été la motivation du metteur en scène pour en fait avoir cet angle de traitement de cette histoire-là. Mais franchement, c'est sur 2h30, c'est quand même la purge. Hein. Je vous le dis, hein, franchement, on est là pour un petit peu être cash aussi. Hein, ouais. Et donc là, pour le coup, le film vaut pas forcément le détour. C'est édité par Pathé dans une très très belle copie. Mais bon, voilà. Autre film, tu as peut-être parlé, Chris.
Peut-être.
Dans la collection Make My Day, un film de Giuseppe De Santis.
C'est bien d'en reparler.
Et donc là, pour le coup, ce film, qui s'appelle Pâques sanglantes, avec Ralph Vallon, Lucia Bosé, Folco Lulli, qui raconte l'histoire d'un berger de retour de la guerre qui tente de récupérer les moutons volés en son absence par un paysan qui a en outre décidé d'épouser sa fiancée. Et donc, ben, les convictions politiques hein, du réalisateur de Riamer qui transparaissent nettement dans cette histoire d'injustice criante, de résistance et de tentative de revanche sur le destin d'un homme bafoué. Le film est magnétique, on peut le dire, forcément on a eu quand même une grande nostalgie par rapport à cette actrice oubliée, Lucia Bosé, qui a été Miss Italie 3 ans plus tôt quand même, hein, donc au passage, hein, voilà. Le film est assez intéressant. C'est édité par Studio Canal et c'est vrai que la collection est vraiment très intéressante. Faut le dire parce que ce sont souvent des films qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir vu ou de voir, en tout cas sur le petit écran ou sur les plateformes. Franchement, voilà, c'est une belle politique éditoriale. Ça permet aussi, c'est ça aussi le support physique, c'est de faire découvrir des programmes qui sont totalement, je dirais, oubliés. Et là, pour le coup, ce film vaut vraiment le détour dans une très très belle copie, en tout cas, et une édition combo DVD et Blu-ray. Donc je vous invite vraiment à vous procurer le film qui est déjà paru chez tous les bons disquaires. Alors on reste quand même dans la partie un petit peu un petit peu soporifique. Enfin moi le film j'ai pas du tout accroché non plus. C'est La Palme d'Or, film dramatique de Jafar Panahi, c'est un simple accident. Le film est sorti donc chez l'éditeur Memento, le film qui raconte en fait parce qu'il croit reconnaître dans un de ses clients le bourreau à la solde de la République islamique qui le tortura quelques années auparavant, un garagiste iranien décide donc de le kidnapper. Alors, c'est vrai que sur le papier, le pitch avait l'air quand même assez intéressant. Mais hormis, les quelques scènes que l'on peut voir dans la bande-annonce, le reste est assez quand même soporifique. 1h43, mais franchement, j'ai pas du tout accroché, à ce film-là. Le message et l'histoire de fond, je pense que c'est ce qui a un petit peu entraîné le fait de que ce film soit récompensé par le message qu'il véhicule. Mais pour le reste, en termes purement cinématographiques, franchement, on a vu beaucoup mieux. Voilà. Je me dispenserai soit d'en faire l'achat ou c'est pas un film que je reverrai avec plaisir. Film assez moyen.
Les critiques avaient quand même plutôt bien accueilli le film, en nuançant effectivement, en disant que c'était quand même peut-être moins réussi, moins fort que le précédent d'ailleurs.
Oui.
Les graines du figuier sauvage, je crois que c'était le précédent.
Autre film en fait franco-belge, qu'on avait vu aussi en salle, film dramatique de Nicolas Ketel, avec Diane Rouxel, Cécile de France et Salomé de Wells. Alors c'est un film assez intéressant, pour le coup, film qui avait été réalisé en 2024, qui raconte l'histoire d'une journaliste, des années après avoir fui enfant le domicile familial, qui était assez violent, faut bien le dire, eh bien, elle se présente incognito chez sa sœur afin de lui consacrer un article. Et donc, je ne vais pas vous raconter la suite de l'histoire parce que ça serait vraiment spoiler cette histoire assez intéressante. Et donc, l'implication manifeste du casting, majoritairement d'ailleurs féminin, notamment de la mère incarnée par Cécile de France via un vibrant monologue consacré au souvenir du drame initial, qui a entraîné d'ailleurs la fondation d'une association dédiée aux victimes de violences conjugales et qui aide à plus ou moins faire passer l'énorme pilule de ce scénario, c'est vrai, mais franchement, l'histoire évite le pathos et franchement, on est entraîné par, je dirais, la vivacité de ces différentes héroïnes. Et donc, moi, je vous invite quand même à le découvrir. C'est Blackout qu'il propose à la vente. Malheureusement, il n'y a qu'une édition DVD pour ce film. Et l'avantage, alors je me rappelle, j'avais eu l'opportunité de le voir en très grande salle. Je pense que c'était une erreur de programmation, hein, parce que j'étais, je crois, le seul. mais en fait, voilà, vraiment des conditions de projection extraordinaires. Et franchement, ben, le film ne m'avait pas déplu. Alors, ce n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais en tout cas, l'histoire est assez prenante et avec de très bonnes actrices. Donc, franchement, ça vaut vraiment le détour, en tout cas, au moins d'être vu. Voilà, si vous ne voulez pas en faire l'achat. Et puis, je voulais terminer quand même par un film d'animation. Film d'animation franco-américain de Bill Plinton qui avait été réalisé en 2024, film interdit au moins de 10 ans, qui raconte l'histoire d'un cow-boy solitaire qui est embauché par le saloon d'une ville dont le maire véreux détruit un village de pêcheurs pour construire un lotissement de luxe destiné à accueillir l'équipe de tournage d'un film hollywoodien. Et donc, avec son inimitable dessin artisanal et son goût de la satire mordante, eh bien, l'éternel trublion de l'animation américaine indépendante s'amuse à passer à la moulinette les codes du western, le cow-boy taciturne, la prostituée au grand cœur, les puissants corrompus, le gunfight final. Dans ce film délirant, au scénario prétexte à de multiples digressions et anachronismes, notamment à l'arrivée d'insectes géants qui terrorisent la population locale. Et donc, les mélodies country contrebalancent l'habituel humour trash du réalisateur qui se teinte ici d'une noirceur inédite. Voilà, c'est vraiment un petit film à découvrir. Il fait à peine 1h20, mais franchement, voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de trouvailles, beaucoup d'originalité. Et c'est dû à un petit éditeur qui nous le propose exclusivement. Alors ça, c'est un petit peu dommage en DVD, parce que ça aurait mérité quand même au moins un Blu-ray. Et c'est l'éditeur ED Distribution. Voilà, donc c'en est tout pour cette sélection, en tout cas de ce soir.
Eh bien, merci Laurent pour cette belle sélection. Et bon, il y a quand même du choix. Si vous aimez les films en import américain ou en anglais, ben je vous conseille la réédition en ultra haute définition du film Tonnerre de Feu, un film de John Badham avec Roy Scheider et Malcolm McDowell. C'est un film vraiment assez passionnant, un film qui était sorti en 1983 sur les écrans en France, et donc Arrow Film nous propose un très beau coffret avec ce film Blue Thunder. Blue Thunder, c'est le titre original. L'histoire d'un vétéran du Vietnam souffrant de stress post-traumatique est devenu pilote pour le Los Angeles Police Department, qui est chargé de tester un hélicoptère militaire high-tech conçu pour surveiller les foules lors des JO d'été de 1984. Il se heurte à un complot dont fait partie un officier qu'il a bien connu pendant la guerre. Voilà donc ce film, voilà, John Badham, un réalisateur que moi j'ai beaucoup aimé, dont le film le plus connu c'est La Fièvre du Samedi Soir, mais enfin, il a fait quand même énormément de films policiers, de comédies. On se souvient aussi d'un Dracula de très bonne facture avec Laurence Olivier et Frank Langella. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous achetez le dernier numéro de Mad Movies, avec en couverture Le Réveil de la Momie, il y a un dossier consacré à John Badham. Voilà, donc c'est tout à fait passionnant et je vous conseille cette lecture. Petite pause musicale maintenant, puisqu'il est 21h50, oui, à la pendule de RTF. Que nous as-tu préparé, mon cher Laurent ?
Allez, une petite pépite.
Oui.
Alors,
il y a des pépites ce soir.
Oui, oui. Et là, pour le coup, un film de science-fiction.
Oui, très bien.
De 2022.
J'ai peut-être une idée.
Ah.
C'est peut-être un peu léger comme indice, mais...
Dis toujours.
Mais vas-y, je complète, alors, parce que voilà. Sait-on jamais.
Alors, dans la distribution, nous avons une très très belle distribution avec Catherine Keener.
Oui. il est taquin.
Braxton Berchken.
Ah oui.
Esther Mingley. Lucy Guest. Ellie Harvey. Voilà, quand même.
Ça se précise. Hein, ça
oui.
se...
Walter Scobell.
Ah oui.
Jennifer Garner, alors là voilà.
Ah oui, non, là attention, ça, là oui, là j'ai. Oui.
Mark Ruffalo.
Ouais, allez.
Ryan Reynolds.
Ah ouais, dis donc.
Et Zoé Saldana.
Ah oui, ah bah alors là, non, là je ne vois pas du tout de quoi il s'agit.
je le savais un petit peu quand même, hein, parce que voilà. Alors, le titre original, c'est The Adam Project, ou Adam à travers le temps.
Ah oui, non, effectivement, là, je l'aurais pas trouvé, je l'avoue.
Et donc, on va écouter l'ouverture, composée par un compositeur américain, que l'on connaît un petit peu parce qu'il a travaillé sur... un des derniers Marvel, qui était Wolverine contre Spider-Man, ou je ne sais plus trop le titre.
Je pense que si tu ne te mélanges pas un peu les pinceaux.
mais surtout, parce que la musique était quand même pas terrible, il faut bien le dire,
ouais.
Mais surtout sur les derniers épisodes des Ghostbusters. Voilà.
Ah oui, là d'accord. Oui.
Et donc... il a composé alors d'autres musiques comme la musique du film The Whale, mais surtout le thème
Théodore Shapiro.
Pas du tout. Rob Simonson.
Ah oui, non, alors là.
Et donc The Adam Project, la séquence, enfin le thème d'ouverture est vraiment magnifique. Et donc on va le découvrir. Malheureusement, forcément, on a gratté ça et là. Il n'y a pas de support physique pour ce film, pour cette musique.
Ah, c'est bien dommage.
Et c'est fort dommage, étant donné que c'est une production Netflix. Mmh. Et donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Je crois qu'il a travaillé sur Stranger Things. Mmh.
C'est vrai que Netflix de temps à autre, voilà, publie la musique d'une de ses productions, mais bon, c'est vrai que c'est assez
vraiment,
rare.
C'est vraiment au compte-gouttes, hein, quand même. Mm. Et donc là, pour le coup, ça aurait mérité. Alors, on ne désespère pas, parce que bon, forcément, ça peut toujours arriver. En tout cas, on le souhaite. Et donc là, on va écouter ce thème d'ouverture qui dure à peu près 5 petites minutes.
Très bien.
Et on va écouter cela, et on se retrouve juste après pour la sélection des films de la semaine. Qu'est-ce que l'on va pouvoir...
Un petit Larsen au passage.
Voilà, un petit Larsen. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller voir au cinéma ? Eh bien, on va vous le dire, parce qu'on va vous donner eh bien, quelques petites critiques sur les films que l'on a vus ces dernières semaines. Allez, tout de suite. L'Alma Project est de Rob Simonson. Thank you. Les films de la semaine, ce soir.
Et nous allons vous parler des Fleurs du Manguier, un film de Akio Fujimoto. Juste une illusion, le dernier film du duo Nakash Toledano avec Louis Garrel, Camille Cotin, Pierre Lotin. Et puis La Corde au Cou, le retour en forme apparemment de Gus Van Sant, Laurent nous en parlera tout à l'heure, La Corde au Cou, avec dans les rôles principaux Bill Skarsgård, Colman Domingo et même la participation d'Al Pacino. On va commencer cette petite chronique avec, peut-être, je ne sais pas, disons, si on commençait par Les Fleurs du Manguier de Akio Fujimoto. Laurent, tu as vu ce film qui nous raconte l'odyssée poignante de deux enfants Rohingyas, me semble-t-il.
Oui.
Un film d'ailleurs qui, je le précise, a obtenu le prix spécial du jury au festival à la Biennale de Venise l'année dernière.
Ben, on comprend pourquoi, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est un film extrêmement dramatique sur en fait le joug en fait de tout un peuple et donc ce peuple des Rohingyas du Bangladesh, et donc qui raconte l'histoire de en fait de l'espoir en fait de toute une famille dispersée, et donc là on suit en fait la destinée de deux enfants, Shafi qui a 4 ans et sa sœur Samira qui a 9 ans, et donc qui quitte le camp Rohingya pour rejoindre en fait la Malaisie, et donc guidés par leur regard d'enfant, et ils entreprennent une traversée périlleuse, et ça raconte en fait cette histoire excessivement dramatique. Film ma foi très poignant, mais c'est pas le but hein, du film. Je dirais que il a quand même beaucoup d'accent documentaire, ce film. Ce d'autant que dans la forme, ça fait quand même très documentaire, très reportage, étant donné qu'il y a beaucoup de scènes qui sont filmées caméra sur épaule, mais avec de très très belles images, forcément de la flore locale. Mais à côté de ça, il y a la terreur qui en fait est orchestré par la junte militaire et donc par ces milices en fait qui chassent ni plus ni moins ce peuple Rohingyas, parce qu'en fait ils n'ont pas véritablement de territoire, ils sont apatrides, et donc du coup ils sont peut-être pas totalement, on peut pas parler d'élimination, mais pas loin quand même. Et donc ils sont obligés de se cacher à longueur de journée pour en fait se déplacer, parce que tout simplement s'ils sont contrôlés, eh bien forcément ils finissent dans des camps, dans des geôles. Et donc c'est un petit peu l'histoire de ces deux enfants qui sont un peu au fur et à mesure de leur périple, qui vont être voués à eux-mêmes. Heureusement que ce cheminement migratoire vers la Malaisie, eh bien ils vont être nombreux et ils vont s'entraider et donc du coup on suit le malheur de ces enfants qui sont accompagnés de leur mère, et malheureusement eh bien au fur et à mesure de leur périple, eh bien plusieurs membres de la famille vont disparaître tragiquement, et c'est là où en fait le film est assez poignant, parce que tout simplement il y a des scènes qui nous cueillent comme ça sans véritablement être averti. C'est-à-dire qu'en fait le film est une sorte de, c'est pas de suspense, mais en tout cas il y a une certaine empathie par rapport à ces deux enfants, et en fait ils sont à l'éveil de leur vie, et en fait ils sont cueillis comme ça et donc ils perdent la vie je dirais bêtement, mais aussi solidairement. Et donc du coup, c'est un film extrêmement poignant où on voit bien sûr la pauvreté de ce peuple, et donc c'est la souffrance, comme beaucoup d'ailleurs de peuples de nos jours, qui subissent en fait des gouvernements dictatoriaux, et donc où la liberté n'est pas la liberté, loin de là. Et du coup, c'est ce qui motive aussi ces personnes à vouloir quitter des territoires pour aller vivre en paix dans d'autres pays. Et donc là, ça raconte cette histoire parce qu'en fait, ces deux enfants veulent aller rejoindre leur oncle qui en fait habite en Malaisie. Et donc ça raconte cette histoire sur le fond, bien sûr, de cette dictature et de cette, chasse un petit peu à ces apatrides, qui en fait vraiment qui est ni plus ni moins on peut qualifier ça de crime contre l'humanité. Et donc ce film est extrêmement poignant, et donc je vous invite, parce que ça s'est bien réalisé aussi, hein. Donc franchement c'est assez bien fait, et donc on est pris au jeu. C'est ce qui motive aussi le fait de cette réussite, parce qu'on est l'histoire nous concerne et nous en tout cas nous attire, et donc du coup c'est plutôt une belle surprise que ce film Les Fleurs du Manguier.
Eh bien, merci Laurent pour ce conseil. Nous irons voir Les Fleurs du Manguier, effectivement. Un très très beau film qui a donc été récompensé au Festival de Venise. Alors on va rester à hauteur d'enfant également, mais cette fois-ci avec une comédie réalisée par Éric Toledano et Olivier Nakache. C'est juste une illusion. Un film qui fonctionne bien d'ailleurs. Hein. Leur précédent film avait un petit peu moins fonctionné, ça s'appelait Une année difficile. Mais là, voilà, on a quand même une comédie qui fonctionne avec une belle distribution. Louis Garrel, Camille Cotin, Pierre Letin et dans le rôle des enfants, Simon Boublil et Alexis Rosenstiel. Un film qui est à la fois un film de d'époque, puisqu'il se situe dans les années 80, et puis un film autobiographique, puisqu'en fait les deux réalisateurs se sont inspirés de leur propre jeunesse pour écrire le scénario du film. Un film qui propose, c'est un film choral avec un peu kaléidoscopique. C'est à la fois l'histoire d'un père face au déclassement du chômage, alors que sa femme, elle, dynamite tous les plafonds de verre professionnellement. Ça raconte aussi l'organisation mouvementée d'une bar mitzvah, ainsi que le premier coup de foudre d'un ado pour la plus belle fille de son collège. Voilà. Mais les cinéastes mêlent toutes ces intrigues avec fluidité et où on est constamment partagé entre le rire et l'émotion. Ça fonctionne vraiment très très bien. Et ce, je pense, il y a la mise en scène, mais toute la reconstitution aussi des années 80, j'ai trouvé tout à fait formidable. Alors il y a aussi la bande son, bien sûr. D'ailleurs, le film s'ouvre avec la musique du groupe Imagination et sur ce méga tube des années 80, Just an Illusion. Hein, c'est le générique début du film. On s'en serait peut-être un peu douté. Voilà. C'est un film, c'est un feel good movie. Voilà, c'est un feel good movie. Effectivement, c'est ça qui est plaisant dans le film. Il y a effectivement un certain nombre de thèmes de qui sont abordés, comme notamment le racisme, l'antisémitisme, quelque part aussi, puisqu'on est dans une famille juive. Et voilà. Bon, il y a peut-être le défaut du film, c'est peut-être le côté un peu cliché, effectivement. C'est un petit peu attendu, voilà, mais ça fonctionne bien. Et je pense notamment, par exemple, à cette histoire de cassette vidéo. Voilà, je vais pas tout vous révéler, mais c'est une sorte de cassette vidéo, c'est une sorte de running gag, hein, dans le film, qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Et puis le charme des interprètes, hein, le charme notamment des enfants, que j'ai trouvé assez convaincant. Donc, en ce qui me concerne, j'ai trouvé qu'effectivement c'était une petite bulle de nostalgie, que ce film, juste une illusion, et tout à fait plaisant. C'est vrai que bon, c'est peut-être un petit peu, je sais pas ce que tu en as pensé Laurent, c'est vrai que c'est peut-être un peu stéréotypé parfois, hein, notamment la caractérisation des parents, mais enfin, comme c'est plutôt bien interprété, il y a des dialogues qui font mouche, donc on passe un bon moment.
Oui, mais bon, après, je crois que... Alors, déjà, L'époque est très porteuse, hein, les années 80, quel que soit le domaine, il y a une très très grosse nostalgie de cette période-là, parce qu'en fait c'était peut-être une des périodes depuis fort longtemps qui était plutôt positive. C'était ces années 80 globalement, il y avait vraiment un engouement, une positivité assez globale, et donc forcément c'est déjà assez parlant pour les générations d'aujourd'hui. En tout cas, il y a peut-être aussi une sorte de nostalgie ou de regret. Donc c'est plutôt un bon argument pour le film. Deuxièmement, cette comédie, c'est vrai que bon, elle est par moments un petit peu stéréotypée, mais quand on prend par exemple l'humour de, alors ça n'a rien à voir, hein, mais l'humour de Finesse, son humour, c'est qu'en fait il a exacerbé en fait certains côtés de la société pour la mettre en image et forcer le trait. Et donc là, je pense que c'est un petit peu volontaire par moment de forcer le trait pour montrer, et puis pour mettre un petit peu en exergue, les bons et les mauvais côtés des choses, même si c'est un petit peu surréaliste par moment, mais franchement, on se plaît à suivre ces pérégrinations, je dirais, de cette famille. Et puis, alors c'est vrai que les enfants sont assez magistraux, mais c'est quand même bien écrit, c'est finement écrit. Je trouve que c'est une comédie qui se démarque quand même par rapport aux comédies que l'on peut voir assez régulièrement de ce point de vue-là. Oui. Et donc c'est vrai qu'on est quand même nettement un ton au-dessus de ce que l'on peut faire en France. Et donc là, c'est vraiment, de ce point de vue-là encore, une réussite. Alors les adultes, moi j'ai quand même... J'adore Louis Garrel, qui est vraiment excellent dans le film, mais aussi Pierre Lottin, qui est...
Ah oui, dans le rôle du concierge.
Voilà, qui est assez magistral aussi.
Oui, effectivement,
alors,
oui.
Camille Cotin, c'est vrai que... Alors, c'est par rapport à l'actrice en général, où j'ai un petit peu plus de réserve, mais là, pour le coup, dans le film, ça passe pas mal. En tout cas, j'ai moins de...
Moi aussi, je l'ai bien aimé dans le rôle.
Ouais. Donc là, pour le coup, moi, j'étais plutôt... satisfait parce que, en fait, au final, alors bercé quand même avec des grands classiques des années 80, il y a le rock, mais il y a la new wave aussi.
Que le grand frère, lui, écoute un peu de la new wave, il écoute The Cure, c'est beau.
Et donc, du coup, c'est vrai que ça nous rebaigne quand même dans une ambiance qui, aujourd'hui, là encore, il y a aussi une grande nostalgie, parce qu'on se replonge aussi dans cette période-là, à travers des artistes. Donc, il y a cet engouement-là. Et donc, c'est ce qui fait que le film a quand même un très grand succès. Hein. Je ne vous cache pas. Et puis aussi, pour sortir un petit peu de cette morosité ambiante. Et donc, du coup, je crois que ce film-là coche toutes les cases pour faire, un bon succès populaire et aussi de qualité, parce que j'insiste là-dessus, parce qu'il y a tellement de films dans ce registre de comédie qui sont quand même assez bas de gamme, que quand on en voit un très bon, on ne peut que, s'en féliciter et puis aussi le promotionner, parce que franchement, ça vaut le détour, parce que c'est vraiment c'est bien senti, on ne faisait pas beaucoup d'illusions sur la qualité de l'écriture, parce que le duo a quand même signé de très bons films, et en particulier on parle beaucoup du Sens de la Fête, qui à mon avis est peut-être un des plus aboutis, et donc franchement, là en tout cas, il faut y aller, c'est sûr. Si vous voulez passer un excellent moment, allez voir Juste une illusion.
Alors on va rester avec un film qui est une reconstitution d'époque également, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les années 80, mais les années 70, avec le nouveau film de Gus Van Sant, La corde au cou, avec là aussi un beau casting, Bill Skarsgård dans le rôle principal, à ses côtés Colman Domingo, et même une apparition d'Al Pacino, comme un clin d'œil à ce film que nous avions aimé, Un après-midi de chien, sorti en 1975. Alors, la corde au cou, qui, me semble-t-il, Laurent, s'inspire d'un fait divers réel.
Oui, tout à fait. C'est un film qui s'inspire en tout cas d'une prise d'otage filmée en direct dans l'Amérique des 70s. Et donc le cinéaste Guy Vincent, qui lui a 73 ans quand même, hein, au passage, interroge sur la folie médiatique et la façon dont elle brouille en fait le réel. Et donc ce qu'il faut dire, c'est que bon, en fait, le film est très axé, voilà, s'inventise, et aussi parce que en fait, alors ça c'est un parti pris du réalisateur, dans la forme, eh bien on a une super, enfin des plans qui alternent plusieurs formats de pellicule, et donc on passe du super 8 au 35 au ralenti, et il y a un mélange d'images, voilà. Alors il semblerait que, en fait, il y ait peut-être un petit souci de budget, et donc Gus Van Sant a dû, essayer de limiter un petit peu les frais, hein, et du coup, parce qu'au départ, il voulait tourner tout en pellicule, mais malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, la pellicule, c'est quand même assez exceptionnel, et puis ce qui se fait, et forcément, il y a un coût qui devient exorbitant et qui, bien sûr, explose au niveau de la production. Donc, en fait, le film, qu'est-ce qu'il raconte, cette prise d'otage ? Alors, c'est vrai qu'au départ, la bande-annonce est quand même assez nerveuse, énergique. Et là, on se dit, là, on tient un bon polar. Ce qui nous surprend quand même un petit peu de Gus Van Sant, parce que bon, on connaît le phénomène. Et du coup, c'est souvent un cinéma assez contemplatif, faut bien le dire. Moi, j'ai souvenir d'un film qui était, ma foi, assez intéressant, mais dans la forme qui est quand même assez élitiste, c'était Elephant. Et donc là, pour le coup, on retrouve un petit peu ce côté un petit peu hermétique de Gus Van Sant. C'est-à-dire que les personnes qui s'attendent à un polar nerveux, énergique, qui sent bon les 70s, eh ben, ils vont être un petit peu déçus. Alors, c'est vrai que dans la forme, ça fait très 70s. Après, dans le fond, c'est vrai que le film, c'est une sorte de huis clos où, en fait, les deux protagonistes, c'est-à-dire l'otage et le preneur d'otage, vont s'affronter verbalement, en sachant que pendant toute la longueur du film, l'otage aura, le canon du fusil accroché à son cou. C'est pour ça qu'on parle de la corde au cou. Parce qu'en fait, le preneur d'otage s'est entraîné pendant des mois pour en fait reconstituer sa prise d'otage pour qu'elle soit réussie. Et donc du coup, pour éviter d'être la cible des forces de l'ordre, il a confectionné une sorte de lasso, si je puis dire, en fil de fer, qui est en fait arrimé au canon du fusil. Et si l'otage bouge, ou si lui bouge par le fait qu'il est touché par un tir, ça presse la détente et l'otage meurt automatiquement, étant donné que le canon est axé directement au niveau de sa colonne vertébrale. Voilà un petit peu, le pitch, avec une histoire quand même de vengeance, hein, parce que ni plus ni moins, le preneur d'otage, on voit bien que par moment, il est complètement allumé, quoi. Il est plus du tout dans la réalité. Et du coup, il part du principe que pendant des années, le cabinet d'assurance l'a spolié sur des terres qu'il possédait, lui et en fait toute sa famille, son père et ainsi de suite. Et du coup, du fait qu'il a pris conscience de cela, il va essayer de se mettre en vedette et aussi d'avoir en tout cas les médias et aussi l'opinion avec lui. Ce qu'il n'a pas, parce que bon, forcément, il y a quand même une véritable violence, en tout cas dans son geste. Et du coup, ça raconte en fait cette épopée-là jusqu'au final. Alors, je ne sais pas si je révèle le final, hein, parce que.
Peut-être pas trop spoiler, si c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein.
Voilà. Mais bon, par moments, c'est assez intéressant parce que voilà, il y a quand même ce petit rythme un petit peu nerveux, mais ça ne dure pas. Et on est quand même sur. Et c'est ça qui est un petit peu gênant dans le film, c'est que voilà, on assiste plutôt à un huis clos un petit peu statique, avec une joute verbale, et le film fait 1h45. Donc il y a quand même ça et là quelques petites longueurs, parce qu'on dit qu'est-ce qui va se passer après, on attend quand même un peu de suspense, et ce qui n'est pas forcément le cas. Je dirais que l'imagerie est assez magnétique, parce que bon, j'aime bien cet univers 70s, même je dirais la couleur un petit peu sale de la façon dont filme Gus Van Sant, mais à côté de cela, les acteurs qui sont magnifique, en tout cas les deux protagonistes sont impeccables. Je pense que là c'est plutôt une histoire de scénaristique on ressort, c'est pas qu'on est déçu, mais on reste un petit peu sur sa fin.
Oui, mais bon, je pense qu'il y a un clin d'œil à Sidney Lumet et son film.
Il y a un clin d'œil, c'est clair. Il y en a Al Pacino, alors là, il a pris un sacré coup de vieux quand même.
Oui, c'est sûr. Depuis 1975.
Sur les premières secondes, là, on a du mal à le reconnaître quand même. C'est un hommage sur bien sûr ce film extraordinaire de 75 de Sidney Lumet, Un après-midi de chien, mais j'ai quand même une préférence pour l'original quand même.
qui était quand même assez énervé aussi. Alors le film de Lumet que j'aime beaucoup, hein, peut-être avec quelques petites longueurs quand même, mais quand même plus de rythme, je pense. Peut-être l'ambiance était peut-être plus tendue aussi.
Oui, je pense aussi. Oui. Donc, franchement, le film est intéressant, mais quand même avec des limites très rapidement dans le développement de l'histoire.
Très bien, merci Laurent. Bien donc ce soir, nous allons parler de La Corde au cou de Gus Van Sant, le film de Tenedano Nakache, Juste une illusion, et puis Les fleurs du manguier de Akio Fujimoto, que nous vous conseillons d'aller voir également. Eh bien, il est 22h27 à la pendule de RTF. Vous écoutez Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale?
Eh bien, je crois que voilà, on va faire une très brève.
Oui, parce qu'après, on va vous parler des films qui sortent sur les écrans ce mercredi.
Ben oui. Et donc là, un film d'aventure que j'avais adoré lors de sa sortie, mais bon, ça date un petit peu, 1992, pour ce film où on retrouvait des grands acteurs, Madeleine Sauve, Daniel Day-Lewis, pour Le Dernier des Mohicans, film donc de 92 de Michael Mann, et la musique était signée par deux compositeurs.
Eh oui.
Trevor Jones et Randy Edelman. À l'époque, on n'avait pas de problème pour avoir la bande originale de film.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient compliqué quand même. Que tout sort en digital, mais si on veut se procurer le support physique, c'est la croix et la bannière.
Ah oui, ça c'est clair. Oui. Et donc là, l'album est très très intéressant. Après, le petit jeu à l'époque de sa sortie, c'est de savoir
qui a composé quoi.
Voilà. Et donc là, on va écouter un extrait qui s'intitule The Kiss.
Très beau morceau, d'ailleurs.
Très, très beau morceau, et très, très bien orchestré, en tout cas, et une mélodie imparable. Allez, on écoute cela, et on se retrouve juste après pour vous annoncer les sorties de la semaine.
Bien maintenant, après la musique de Trevor Jones pour Le Dernier des Mohicans, nous allons vous donner la liste des films qui sortent sur les écrans ce mercredi 29 avril. Et oui, on arrive au mois de mai, le temps passe. Alors, il y a quand même quelques films intéressants qui arrivent. Alors, Laurent, je te laisse le micro parce que je pense qu'il y en a, encore quelques-uns qui sortent.
Alors, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas énormément. Alors, ça sera les sorties sur la région. Ça ne sera pas les sorties nationales. En tout cas, on va commencer par une sortie d'un film d'Eva Libertad Garcia. Qui s'intitule Sorda. Le pitch qui raconte l'histoire d'Angela qui est sourde. Et donc Hector est entendant et ils forment un couple épanoui et heureux malgré leurs différences. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela. Saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d'inclure ceux qui n'entendent pas. Voilà. Première sortie. L'autre sortie, c'est un film qui s'intitule Sukwan Island, réalisé par Vladimir de Fontenay, avec Swan Arto, entre autres. dans les rôles principaux. Il y aura aussi Woody Norman, et qui raconte l'histoire de Tom qui emmène son fils de 13 ans vivre une année sur une île isolée dans le Grand Nord. Et ce retour à la vie sauvage, au cœur d'une nature majestueuse, leur permet de se retrouver, mais les conditions extrêmes et l'isolement mettent leur relation à l'épreuve. Autre sortie, un film peut-être là encore assez intéressant, un film de Damiano Micheletto, c'est Vivaldi et moi.
Ah oui, ça a l'air très intéressant.
Donc ça se passe au début du 18e siècle. L'Ospedale della Pietà à Venise, qui recueille et forme de jeunes orphelines à la musique, dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, eh bien, l'orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l'institution. Et donc Cecilia, qui a 20 ans, y excelle en tant que violoniste, jusqu'au jour où l'arrivée d'un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l'hospital.
Oui, ça a l'air assez passionnant, le sujet est passionnant. Et on découvre aussi l'existence de ces femmes compositrices.
Oui, mais je crois qu'il y avait eu un film.
Il y avait eu quelque chose, oui. Le titre ne me revient pas. Le titre ne me revient pas, mais effectivement, je me souviens d'un film un peu sur ce sujet. Je ne sais pas si c'était sur Barbara Strozzi. Enfin bref, il y a eu un film, en effet, oui.
Alors, autre sortie, nous avons le film de Alain Gomis, c'est Dao, qui raconte l'histoire. Nous sommes en Guinée-Bissau, et donc aujourd'hui, qui Gloria marie sa fille en banlieue parisienne, et donc elle assistait à la cérémonie qui consacre son père décédé en ancêtre. Et donc d'une cérémonie à l'autre, entre passé et présent, vie et mort, eh bien réalité et fiction, eh bien Gloria se réconcilie avec son histoire, trouve sa place et connaît un moment de paix. Autre film, film de Lynn Ramsey, Die My Love, avec Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, et qui raconte l'histoire de Grace et Jackson, qui fuient New York et qui décident de fonder une famille dans l'immensité sauvage du Montana. Mais quand leur fils naît, lasse et en proie à une solitude grandissante, eh bien, grâce sans sa réalité lui échapper, et peu à peu, elle perd pied, fragilisée par une maternité qu'elle affronte presque seule. Autre film, L'enfant bélier de Martha Bergman, qui raconte l'histoire de Sarah et Adam, qui sont arrivés illégalement en Belgique avec leur petite fille de 2 ans, espérant donc rejoindre l'Angleterre. Et, entassés à l'arrière d'un véhicule, eh bien, la peur semble prendre le pas sur l'espoir, et Redouane est policier depuis 20 ans, et avec son équipe, toutes les nuits, il fait la chasse aux passeurs. Et ce soir-là, alors que la voiture de police essaie d'arrêter la camionnette soupçonnée de transporter des migrants, eh bien, tout bascule. Autre film, là par contre, pas de surprise, hein, on en parle quand même, voilà, c'était extrêmement médiatisé. Film de David Frankel, Le diable s'habille en Prada, donc deuxième volet. Oui. On y retrouve bien sûr Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, voilà, dans cette comédie, et donc qui sort bien sûr mercredi en grande salle, forcément. Voilà Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des sorties.
Alors, théoriquement, parce qu'il y a un film fantastique qui sort qui s'appelle Okoum, qui alors, est un peu dans l'esprit de Barton Fink.
Alors, Okoum, qui, comme tu le dis, oui, il sort mercredi. Et donc, c'est le film de Damian McCarthy. Et donc, qui raconte l'histoire d'Homme Bowman, un romancier qui se retire dans une auberge pour disperser les cendres de ses parents. Mais les récits du personnel au sujet d'une sorcière ancestrale entend donc la suite nuptiale s'empare peu à peu de son esprit.
Mmh, ça n'a pas l'air mal, hein, franchement, à découvrir. J'espère qu'ils vont sortir aussi le film néo-zélandais, là, Marama, là, mais qui devait sortir la semaine dernière, mais qu'on n'a pas vu.
Là, apparemment, ce n'est pas prévu. On aura droit quand même à un petit film d'animation.
Oui, parce que c'est le 1er mai, donc on en profitera.
Et donc, on pourra découvrir eh bien, ce film de Ute von Muncho, Paul, c'est Elfie et les super Efkin. Voilà.
Très bien. Bon, merci Laurent. Voilà, si tu nous as un petit peu brossé un petit peu les films qui sortent ce mercredi. On se retrouvera nous bien lundi prochain,
à partir
de 20h45 pour la suite de nos aventures dans Cinéscopie. Et pour l'heure, eh bien, nous vous souhaitons une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF, une excellente semaine, notamment dans les salles obscures, à la découverte des cinématographies du monde entier.
Oui, et puis allez, profitez, fréquentez ces salles obscures, il y en a pour tous les goûts. Et comme je le dis, le cinéma, c'est une fenêtre ouverte sur le monde.
Et
donc
oui,
il faut aller au cinéma. Lésinez pas, allez voir des films. Et en plus, bon, il va y avoir des jours fériés là, mois de mai. Donc ça va être vraiment propice à profiter d'un programme tout à fait éclectique.
Merci Laurent. Eh bien, je te souhaite aussi une excellente semaine. Et puis on se retrouve lundi prochain.
Excellente semaine à toi et à vous aussi. Et donc à lundi prochain.
Ciao, ciao.